Un tire-d'aile, une rubrique consacrée à l'écologie et plus spécialement à l'ornithologie. Cette rubrique, nous la devons à l'ornithologue Frédéric Mallaire en partenariat avec la section Île-de-France de la Ligue pour la protection des oiseaux. Une belle collaboration donc entre la LPO et l'Alpha 10-13. Tous les mois, on découvre ensemble un peu plus le monde passionnant des oiseaux et le travail essentiel de la LPO. Et dans cette quatrième chronique, Frédéric Mallaire nous parle du plaisir que l'on a à observer les oiseaux se poser et se nourrir dans les mangeoires qu'on installe dans nos jardins. Il nous donne donc quelques conseils pour les aider efficacement et durablement. Frédéric Mallaire nous dit enfin comment participer au grand week-end d'observation appelé Oiseaux des Jardins, mis en place par le Muséum d'Histoire Naturelle et la LPO. Alors écoutons tout de suite À Tire-d'Aile, saison 1, épisode 4, le comptage national des oiseaux des jardins, une chronique de Frédéric Mallaire de la LPO Île-de-France pour l'Alpha 10-13.
Bonjour à tous. L'hiver s'est donc bien installé et sans doute beaucoup d'entre vous ont pensé à mettre de la nourriture à disposition des oiseaux pour les aider à passer la mauvaise saison. Mais au fait, est-ce que cela leur est vraiment utile? Les avis divergent sur la question et de toute façon, la réponse n'est pas simple. Certes, cet hiver nous aura offert une période prolongée de froid, mais les températures restent à seulement quelques degrés des moyennes de saison. Lors d'un hiver normal et dans un milieu normalement riche en biodiversité, les oiseaux peuvent en fait parfaitement se passer de nourriture fournie par l'homme. Les granivores trouvent suffisamment de graines ou de petits fruits secs. Les insectivores sédentaires, comme les mésanges, adaptent leur régime alimentaire et complètent les quelques invertébrés qu'ils trouvent par un régime partiellement granivore. Mais si on peut considérer cet hiver comme un hiver normal, que peut-on considérer comme un milieu normalement riche en biodiversité? Il est clair que ce n'est pas le cas de nombreux secteurs et que les mangeoires peuvent donc être utiles dans ces zones où la nature a tellement subi d'agressions qu'elle ne peut plus nourrir correctement la vie faune. Il faut cependant avoir l'honnêteté de reconnaître que si nous mettons des mangeoires, c'est aussi pour le plaisir de voir les oiseaux de près. Et leur intérêt pédagogique n'est plus à démontrer. Alors, profitons-en, mais qu'au moins cela ne soit pas préjudiciable aux oiseaux. D'où peuvent venir les problèmes? D'abord de la qualité de la nourriture. Pas de pain, pas de sel, donc pas de graines salées, mais des graines nature, de la graisse plutôt végétale, des fruits secs et des pommes. Si possible, des produits bio, autant aider l'agriculture qui favorise les oiseaux le reste de l'année. Deux manières de disposer la nourriture. Les dispositifs suspendus, pour les mésanges en particulier, pensez à retirer les filets en plastique des boules de graisse, et des plateaux mangeoires pour les moineaux, pinsons et verbiers. Attention, en attirant de nombreux oiseaux au même endroit, les mangeoires peuvent faciliter la transmission de maladies, donc si possible, multipliez les points de distribution et nettoyez au moins toutes les semaines les mangeoires plateaux en les désinfectant. Il faudra aussi penser à arrêter de nourrir les oiseaux au printemps pour les laisser retrouver leur régime alimentaire habituel et aussi pour ne pas perturber ceux qui ont établi leur territoire dans la zone de la mangeoire. Ils n'aiment pas trop leurs congénères durant cette période. J'ai parlé tout à l'heure du plaisir qu'on a observé les oiseaux qui viennent aux mangeoires. On vous propose de transformer ce plaisir en données scientifiques. Comment ça? Grâce à l'opération Oiseaux des Jardins, développée par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la LPO. On propose aux gens, même non ornithologues, de compter les oiseaux qui fréquentent leur jardin. On peut le faire toute l'année, mais on se focalise surtout sur deux week-ends, un en hiver et l'autre au printemps. La prochaine opération aura lieu le week-end du 24-25 janvier. Et que faut-il faire pour y participer? Dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site de oiseauxdesjardins.fr, oiseaux des jardins au pluriel et en un seul mot, pour y déclarer votre jardin. Vous verrez qu'on vous demande d'en décrire quelques caractéristiques qui peuvent avoir de l'importance pour les oiseaux. Et aussi qu'on vous propose, pour vous aider à les reconnaître, un certain nombre de dessins des espèces les plus communes. Vous pouvez ainsi vous entraîner avant le week-end de comptage. Le samedi 24 ou le dimanche 25, vous vous mettez derrière votre fenêtre ou dans un coin un peu retiré du jardin, et vous notez les oiseaux que vous voyez pendant une heure. Il ne s'agit pas d'additionner tous les oiseaux que vous voyez, car vous allez compter plusieurs fois le même. Vous n'allez retenir que le plus grand nombre d'individus d'une même espèce que vous avez vus en même temps. Par exemple, si vous voyez trois mésanges charbonnières qui se nourrissent, puis repartent, puis deux qui arrivent, remplacés par quatre autres, vous ne retiendrez que le nombre 4. À la fin de la séance, il ne vous restera plus qu'à reporter vos résultats à la page de votre jardin sur le site oiseauxdesjardins.fr. Non seulement cela vous procurera du plaisir à observer tout ce petit monde, mais vous aiderez à faire progresser la connaissance sur l'intérêt des jardins privés. On pense qu'ils jouent un rôle non négligeable pour la survie de certaines espèces, mais ils sont difficiles d'accès pour les scientifiques. Alors, merci pour eux.
Et comme souvent, nous clôturons maintenant ce attire-d'aile par l'espèce du mois. Après nous avoir parlé de la mouette rieuse, Frédéric Mahler nous parle ce mois-ci de deux espèces qui se ressemblent, un serrurier et une belle bleue.
Ce mois-ci, vous aurez deux espèces du mois pour le prix d'une. Pour rester dans le contexte des jardins et des mangeoires, je vais vous parler de deux espèces qui les fréquentent beaucoup. La maison charbonnière et la mésange bleue. Elles sont assez proches l'une de l'autre et on les voit souvent ensemble, du moins aux mêmes endroits. Les mésanges forment un groupe d'oiseaux répandus sur tous les continents, sauf l'Australie et l'Amérique du Sud. Elles ont à peu près toutes la même silhouette trapue, plus petite que le moineau, leur bec est court et pointu. En France, on en trouve 6 espèces, dont les deux plus communes sont justement nos deux espèces du mois. La mésange charbonnière est la plus grande des deux. Elle doit son nom à sa tête noire soulignée par des joues blanches. Elle a le dos verdâtre et le ventre jaune traversé par une cravate noire. La mésange bleue, et donc plus petite, tire son nom de sa calotte bleu cobalt, soulignée par un trait noir sur l'œil et des joues blanches. Elle a le ventre entièrement jaune. S'il est quasiment impossible de distinguer dans la nature le mâle de la femelle chez les mésanges bleues, on peut y arriver avec un peu d'attention, et une paire de jumelles, chez la charbonnière. La cravate noire des mâles est large et descend jusqu'entre les pattes, alors que celle des femelles est plus fine et s'estompe avant d'atteindre les pattes. Les cris de ces deux espèces sont très variés, et la mésange charbonnière est en particulier réputée pour être parfois déroutante de ce point de vue. Leur chant est en revanche assez simple à reconnaître. Celui de la charbonnière est une succession de groupes de 3 notes, titipu, 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 ou de 2 notes, tipu, 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 qui lui a valu le surnom de serrurier, car il évoque le bruit d'une lime sur un morceau de métal. Celui de la mésange bleue est plus cristallin, 2 notes aiguës suivies d'un tri descendant. Ces espèces sont très répandues en France, où elles restent en général toute l'année. On dit qu'elles sont sédentaires. Certaines années, on peut en voir arriver en hiver des groupes importants venus du nord ou de l'est de l'Europe. C'est le cas de cette année pour la mésange bleue. En région parisienne, un ornithologue en a compté jusqu'à 160 passant devant lui en une seule matinée. Durant la bonne saison, elles se nourrissent essentiellement d'invertébrés, surtout au moment de la reproduction, où le nourrissage des jeunes nécessite jusqu'à 500 proies par jour, surtout des chenilles. Il faut les voir inspecter attentivement les feuilles d'arbres suspendues la tête en bas pour découvrir l'insecte recherché. Au total, on peut estimer qu'une couvée nécessite la capture d'environ 6000 proies, sans compter que les jeunes, une fois envolés, vont continuer à se nourrir tout seuls. C'est plus efficace que les pesticides, gratuit et sans danger. En hiver, comme les insectes se font plus rares, les mésanges deviennent surtout granivores et c'est là qu'elles peuvent se rapprocher encore plus de nos jardins. Les mésanges sont dites cavicoles, c'est-à-dire qu'elles font leur nid dans des cavités naturelles ou artificielles. Ce sont souvent des trous d'arbres, mais cela peut être des trous de murs, des pots de fleurs renversés, des boîtes aux lettres, ou parfois des sites improbables. J'ai ainsi trouvé un nid de mésange charbonnière dans le sol, à l'intérieur d'un de ces gros tuyaux en plastique que l'on place au pied des arbres qu'on vient de planter pour les arroser. Il est donc aisé de les attirer dans des nichons artificiels, dont les modèles se trouvent facilement sur Internet si on veut en fabriquer soi-même. Pour attirer séparément les deux espèces de mésanges, on pratiquera un trou d'envol de 28 mm de diamètre pour la mésange bleue ou de 32 mm pour les charbonnières. On mettra si possible un dispositif anti-prédateur pour éviter que les chats grimpent jusqu'au nichoir. En revanche, on ne mettra jamais de perchoir à l'entrée. Les mésanges n'en ont pas besoin et ils peuvent aider les corvidés qui voudraient piller le nichoir. Les mésanges pondent beaucoup d'œufs. Les charbonnières de 7 à 9 par couvée et les mésanges bleues de 9 à 13. En général, début avril. Les œufs sont couvés une quinzaine de jours et les jeunes restent au nid environ 20 jours. Après un envol autour de la mi-mai, ils quittent assez vite le territoire familial car leurs parents entament souvent dans la foulée une seconde couvée. On peut être étonné par le nombre de jeunes produits chaque année par un couple de mésanges. Si tout se passe bien, cela peut atteindre une quinzaine pour les charbonnières et une vingtaine pour les mésanges bleues. Mais c'est pour compenser les pertes énormes subies par les jeunes après leur envol, où ils sont la proie facile des prédateurs, ou lors de leur premier hiver. Il y a au total environ 80 à 90% de mortalité la première année. On comprend aussi que les années favorables, où la mortalité des jeunes est plus faible, ils en survivent tellement qu'ils doivent partir chercher fortune ailleurs, provoquant les afflux comme ceux des mésanges bleus de cette année. Quoi qu'il en soit, l'observation de ces deux espèces de mésanges, parmi les oiseaux les plus familiers de nos villes et villages, est une source de plaisir toujours renouvelée. Ne vous en privez donc pas. À la prochaine fois, et d'ici là, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles.